Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis RM et je suis accompagné aujourd'hui par Bad Karma. Salut Bad Karma, comment vas-tu ?
Salut RM, salut tout le monde. Bah écoute, moi ça va. Sur la brèche encore une fois cette semaine et puis je laisserai les autres faire les reviews à ma place
ouais.
Semaine prochaine.
J'ai reçu un tas de demandes de congés payés là, les 3 semaines de vacances que tu as déposées au service RH de Catch Up. C'est en cours d'analyse, hein. On va voir. Ouais, effectivement, le marathonien Bad Karma qui a été sur tous les fronts, Wrestle Kingdom, l'analyse que je vous invite à aller retrouver, à aller écouter. Hein. Perso, j'ai maté le plus gros pay-per-view japonais, effectivement. Il y a eu du lourd. Ensuite, il y a les awards, hein, qu'on a fait ce mercredi. On a décerné nos tops et nos flops de l'année 2018 à la WWE. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter cette grosse émission annuelle. Et puis évidemment, les reviews weekly, ça c'est le fil rouge ou le fil bleu de Catch Up. Et donc cette semaine, nous allons analyser le dernier épisode de SmackDown Live dans lequel Daniel Bryan pense que le plastique c'est pas si fantastique. Rusev est encore victime de l'arbitrage vidéo et Shane McMahon veut rester réglo. C'est Daniel Bryan qui ouvre le show. Il est dans les travées du stade, hein, là où il y a tous les stands, avec un petit peu la foule comme ça, qui est derrière les barrières. Alors, donc, il y a des gens qui ont droit d'être là, et sûrement soit des fans, des spectateurs sélectionnés sur le volet, ou alors des acteurs de second rôle. Et Daniel Bryan n'est pas content, il passe un peu en revue justement les stands là de l'enfer, boissons, sucre ajouté, les gobelets en plastique, les pailles en plastique, rien ne va, rien ne lui plaît. Hein. Il nous raconte, il nous explique, face caméra en fait, hein, il y a caméra qui le suit, un caméraman, il nous explique que si nous consommons hein, tous ces mets du diable, c'est pour remplir un vide béant dans nos cœurs, tout comme nous encourageons AJ Styles, qui lui aussi a un trou béant dans son cœur, tout le monde a un trou béant dans son cœur, et on le remplit en mangeant du KFC et en buvant des sodas. Je ne sais pas si vraiment on fait tout ça, mais c'est une façon de faire, effectivement. Après, il se déplace, il va voir un... Ah oui, non, d'abord, il jette les boissons et toute la bouffe sur les gens qui sont là. Après, il va sur un stand de goodies. Il y a encore du plastique partout, alors ça l'énerve. Il y a des t-shirts du merchandising du Phenomenal One, ça l'énerve. Évidemment, il n'y a aucun merchandising Yes Movement, c'est normal. Il l'a tué, le Yes Movement, il n'existe plus. Donc voilà, il continue d'agresser un peu tout le monde avec sa diatribe, et il descend après jusqu'au ring, où l'attend finalement R-Truth, venu réclamer vengeance et nous rappeler à notre bon souvenir que c'est quand même lui, hein, le 30e entrant, c'est une menace. S'ensuit un match assez enlevé, pas mal relevé même, mais perdu évidemment par R-Truth. Et quand Daniel Bryan repart sous le titantron, AJ Styles est là pour le passer à tabac avec beaucoup de violence, comme Monsieur McMahon lui a demandé. Qu'est-ce que tu as pensé, mon bon Bad Karma, de cette grosse diatribe là, qui nous a lancé Daniel Bryan, qui a duré pas mal longtemps? Est-ce que le plastique, c'est le mal?
Quelque part, il a raison. Hein, les humains consomment trop de plastique à usage individuel. Ça, c'est indéniable. Donc là, on part sur un fait écologique avéré. Donc là, de ce côté-là, on ne peut pas le nier, il a raison. Maintenant, les raisons pour lesquelles on a ça, c'est peut-être qu'il faut revoir le mode de pensée, il a raison. Maintenant, est-ce qu'il veut forcer les gens à le faire? Généralement, quand tu veux forcer les gens à quelque chose, ça finit mal.
Il faut être plus subtil que ça, ouais.
C'est ça. J'ai trouvé son segment, il est peut-être un peu trop agressif face caméra. S'il était un peu plus calme, un peu plus posé, ça pouvait passer mieux, mais là, c'est volontairement qu'il est agressif et il y a un but derrière. Montrer que ça l'énerve tellement qu'il en perd, il perd son calme et tout. Mmh. Ça me dérange pas plus que ça. C'est son droit, il fait ce qu'il veut. Ça, ça va pas me changer mon mode de vie personnel complètement. Il y a des trucs que malheureusement la société actuelle fait qu'on a, on n'a pas trop le choix. Quand tu vas acheter, enfin tu vas dans un fast-food, la boisson, t'as forcément un gobelet à usage unique, une paille à usage unique, un couvercle à usage unique. Il faudrait régler ce problème-là de façon plus globale.
Ah, il soulève quand même une des questions assez importantes, effectivement. Et
Voilà.
comme tu l'as dit, il était plutôt énervé, notre Daniel Bryan. Il
Ouais,
s'est fait un petit
il était
peu calmer
super
par
énervé.
il s'est fait calmer par R-Truth, quoi.
Ah, c'est ça. Et puis, donc le public de Jacksonville, puisque t'as pas précisé la
Ah oui.
ville du stade, le prend plutôt bien, sa diatribe, avec les boos habituels parce qu'il est heel, parce qu'il est énervé. Ça,
Ouais.
c'est. Ça, voilà, ça rentre bien. Donc, a priori. Maintenant, pour que Brian se fasse acclamer par le public, il va falloir qu'il fasse un truc absolument génial. Puis, la petite surprise, R-Truth qui, d'un petit saut, lui rappelle que, au fait, on a un match, tu vas pas t'enfuir comme ça. Ça, c'était bien, bien amené aussi, ça permet d'utiliser l'élément de surprise bien comme il faut. R-Truth qui sort un match plus que correct, hein, je veux dire. Il est booké relativement fort le pépère pour un gars qui fait de la mid-card, low-card joke. Là, il a un match plutôt correct. Il rappelle voilà qu'il est une menace plus ou moins crédible. Et sa place au Rumble, il l'a gagnée. Il va la défendre. Moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner par la suite pour lui aussi. Donc voilà, donc un segment d'entrée qui m'a bien plu. L'intervention d'AJ Styles. Peut-être un petit peu too much. Ils auraient pu se concentrer sur une confrontation de mots à ce moment-là, mais bon. Allez, ça c'est pour pinailler un peu, on va dire.
Ouais, bah, AJ Styles, de toute façon, c'est toujours un petit peu difficile. On est un peu passé du tout au rien avec AJ Styles, ou plutôt du rien à tout. Où effectivement, avant, il était plutôt du genre à essayer de poser, maître de ce qu'il fait, et toujours en contrôle de lui-même. Là, il vient attaquer Daniel Bryan, sans que Daniel Bryan l'a évidemment provoqué, mais de façon presque indirecte, en fait, avec sa diatribe. Là, AJ Styles lui fonce un peu dessus. C'est vrai que je suis encore un petit peu curieux de voir exactement ce qu'ils veulent faire d'AJ Styles avec ce nouveau comportement qu'il a, qui a été provoqué visiblement par, enfin, qui a été provoqué par Vince McMahon, mais Vince McMahon qui n'est pas apparu cette semaine, donc on ne sait pas exactement si c'était juste une étincelle qu'il voulait déclencher chez lui, ou est-ce qu'il y a un plan
Ouais.
derrière. Au moins, ça a le mérite de rajouter un petit peu de saveur d'électricité dans le personnage d'AJ Styles, à voir comment ça va rendre dans leur match au Royal Rumble.
Ouais.
Mais effectivement, bah écoute, c'était une bonne intro, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette promo. C'était un petit peu long. C'était effectivement. Il était bien énervé, notre Daniel Bryan, mais ça a plutôt bien marché. Et c'est plutôt bien enchaîné. J'aime bien que c'est fluide comme ça, quand tu passes d'une promo à un match en même pas 30 secondes. Et R-Truth, effectivement, qui est buildé assez fort à quelques semaines là, du Royal Rumble. Vu qu'il est le 30e entrant, bah c'est plutôt bien foutu. C'est plutôt important de faire ça.
Voilà.
On a eu un autre match sans vraiment de construction particulière. On avait un 2v2, Mustafa Ali et Rey Mysterio, qui ont affronté Andrade et Cien Almas et Samoa Joe. Bah écoute, on avait là entre les cordes quand même des sacrés workers, avec d'un côté cette team là entre le rookie Mustafa Ali et probablement une de ses idoles, mais Rey Mysterio est un peu l'idole de tout le monde. Et c'était super parce que quand tu regardais pendant le match, tu voyais Mustapha Ali, il avait le sourire, il avait la banane. Il regardait Rey Mysterio là, donner des coups ou alors s'en prendre. C'était marrant parce que des fois Rey Mysterio se faisait passer à tabac et Mustapha Ali, il avait encore le sourire
C'est vrai.
du fan qui est trop content de catcher comme ça avec Rey Mysterio alors qu'il est en train de se faire tabasser. Ça part dans tous les sens, évidemment, ça virevolte à 100 à l'heure. En face, Samoa Joe et Cien Almas sont un peu plus stiff, évidemment. On a notamment alors, une séquence incroyable qui a fait le tour des internets avec ce Canadian Destroyer, hein, de Cien Almas, enfin de non, de Rey Mysterio sur Cien Almas, hein, dans une séquence assez improbable. C'est toujours impressionnant de voir ces prises. À chaque fois que je vois ces prises, je me dis, mais attends, c'est pas le genre de truc qu'ils interdisent, WWE. Bah voilà, il y en a qui ont des passe-droits. Rey Mysterio en est un. Mais à la fin, malgré toute la bonne volonté des gentils, Rey Mysterio se fait prendre par El Idolo, qui lui place donc son Hammerlock DDT pour la victoire. Voilà, un match simple, efficace, pour booker des mecs qui seront dans le Rumble. Pas besoin de se prendre la tête parfois, il suffit juste de mettre 4 gars solides entre les cordes et la magie opère.
C'est ça. C'est ça, bah. Comme tu dis, le match avait pas besoin de build spécial. Puis on a vu un match de fou. Et, enfin de fou. Un match avec un spot monumental, le fameux effectivement Canadian Destroyer qui fait mal dans la tête d'Almas, hein, on va pas se mentir.
Vu du canapé, ça avait l'air de faire mal,
Ouais. Et à côté de ça, on a eu Mustapha Ali, effectivement, super content d'un bout à l'autre d'être dans ce match avec Mysterio. Tout le passage entre Mysterio et Almas, bah, ça m'a donné envie de voir un vrai
Ah
match
ouais.
entre les deux. Un vrai match de 20 minutes, 25 minutes entre les deux avec la limitation levée, quoi. C'est-à-dire, en fait, qui montre tout ce qu'ils savent faire. Ça me ferait kiffer cette année. Voilà, bah du coup je suis hypé pour le Rumble, je les vois bien, j'ai envie de les voir comme il faut. Ouais, vivement la suite.
Ouais. Là, enfin, c'est une telle évidence qu'il fallait mettre Cien Almas et Rey Mysterio face à face. On se demande pourquoi ils ont attendu tout ce temps-là, mais ça y est, hein, on voit que la magie opère. Cien Almas était tellement. Tout le monde était à sa place ce soir-là, en fait. T'avais d'un côté, bah, on en a parlé, hein, le jeune rookie et pas son mentor, mais son idole qui sont en
Ouais.
face. Et en face, t'as les deux méchants. Zelina Vega qui redevient le manager qu'on veut qu'elle soit. Et puis les deux luchadors qui déroulent tout ce qu'ils savent faire et qui avaient une alchimie de dingue. Voilà, des fois il faut pas se poser de questions quand on a des matchings comme ça, des pairings aussi évidents, il faut y aller. Je suis comme toi, hein, je suis impatient de voir le Rumble et surtout je suis impatient de voir après le Rumble
Ouais.
les rivalités qui vont se mettre en place parmi tout ce beau monde là. On s'inquiète pas pour SmackDown à ce niveau-là. Direction. Alors, non, enfin, direction. Aujourd'hui, c'était. Enfin, le mardi soir, mardi, je sais pas si tu étais au courant, c'était un Rusev Day, mais c'était surtout un Sad Day, un jour triste. Rusev est tout penaud,
Ouais.
car Lana est blessée. Hein. Lana a été blessée il y a une semaine ou deux. Elle est alitée, elle a été brutalisée par ce fieffé Nakamura. Il fait vraiment la gueule, hein, Rousseff. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. J'étais un petit peu triste. On savait pas trop où il voulait en venir. Il commence à vraiment rentrer la tête entre les épaules. Il pose sa ceinture de champion US. Il dit que ce soir, il n'est pas un catcheur, il n'est pas champion, c'est un simple époux. Et puis la colère revient. Il dit, mais un simple époux en colère. Il s'en prend à Nakamura. Il l'invite à rejoindre le ring pour régler ses comptes. Mais Nakamura, qui est dans le camion régie, hein, il s'est caché dans le camion régie, comme Giscard le fait parfois quand on enregistre. Nakamura, il a une preuve vidéo, il a une vidéo à charge pour nous démontrer que c'est bien Rusev qui aurait blessé Lana. Donc il nous passe la vidéo et effectivement, on voit que c'est lors du super kick de Rusev que Lana est tombée. Alors, on voit pas vraiment d'impact, hein. C'est un peu sous des angles où tout est possible, toute interprétation est possible. Donc Nakamura en fait des tonnes. Et quand Rusev court sous le Titan Tron, la Gorilla Position pour partir à la recherche de Nakamura, ce dernier qui était caché derrière une grosse caisse à roulettes le prend par derrière et le passe à tabac. Dans un plaisir évident. Voilà, Rousseff, qu'est-ce que tu penses de ce Rousseff triste, de cet homme en colère, cet époux en colère?
Bah écoute, Il a toutes les raisons d'être en colère, hein. Je veux dire, sa femme a été attaquée, enfin a été blessée par des actes comment je pourrais dire ça? Ouais, voilà, des actes qui devraient pas avoir lieu, quoi. C'est voilà. Mais effectivement, Nakamura, il prouve un point en disant, bah regarde la vidéo. Tu m'aurais pas apporté le super kick, elle serait pas tombée, elle aurait pas eu mal, donc en fait c'est de ta faute. Et c'est indéniable, c'est effectivement le cas, et on peut pas défendre l'indéfendable du coup. Bon, après je pense que c'était. Je pense qu'à la base c'était un accident un peu, elle devait pas tomber aussi fort. À l'origine, et qui du coup ils en profitent, ça c'est plutôt bien trouvé de leur part. Maintenant, à voir la suite. Nakamura, il a décidé de la jouer un peu fourbe, de prendre en traite. Bah, pourquoi pas, on va bien voir ce que ça va donner. Et
Ouais, je
puis,
te... Ouais.
Rousseff D, Rousseff, tout va bien pour lui apparemment, mis à part la tristesse de savoir que sa femme n'était pas là ce soir. Eh ben, on va lui souhaiter le meilleur pour cette année 2019, vu qu'il a enfin le spotlight un peu sur lui. Ça, c'est tout ce qu'on voulait. Ça fait partie un peu des vœux de catch-up, entre guillemets. On voulait tous que Rousseff soit un peu mieux, enfin, un peu mieux utilisé, un peu plus présent, et pas dans des storylines à la con.
Bah ouais, c'est de l'or en barre ce mec. Alors moi, je t'avoue, au début, j'ai eu un petit peu peur quand il commençait à faire son petit discours là, tout penaud. C'est pas vraiment le Rousseff que j'ai envie de voir.
Ouais, c'est
Moi,
vrai aussi, ouais.
je veux voir un mec, je veux voir le Rousseff costaud et qui détruit tout et qui est rigolard et pas forcément le Rousseff tout triste, tout penaud, qui pose sa ceinture, qui l'a enfin gagné. T'étais là, ça y est, il a enfin sa ceinture, il est enfin dans une grosse rivalité, et puis il se laisse abattre. Mais non, c'est bon, allez, il va se reprendre. C'est normal d'être triste quand on est dans ce genre de situation, quand un proche est blessé. Mais ouais, moi ce que j'espère aussi, c'est que Nakamura, voilà, qui a été quand même un de nos flops de l'année 2018, il profite de cette rivalité, parce qu'il a quand même Rousseff, c'est un mec qui est c'est de l'or, ce mec-là. Et si tu fais pas une bonne rivalité avec Rousseff, je sais pas trop ce que tu peux faire. Donc,
Ouais.
je pense que ça va être cool jusqu'au Rumble, et pourquoi pas aller pousser jusqu'à Mania, on verra. Mais
En
c'est
plus,
bien de voir Rousseff, ouais.
je pense que Rousseff et Nakamura ont des styles de catch qui sont assez complémentaires. Vu que Rousseff, on sait qu'il est capable d'encaisser énormément. Nakamura, on sait qu'il est capable d'envoyer une volée de coups assez rapidement. Donc ça peut donner un match, un vrai bon match. Donc moi, ouais, j'ai envie de voir.
Ouais, bah d'ailleurs, leur match qu'ils avaient eu à SmackDown qui avait donné lieu à la prise de titre avait été un excellent match de Weekly,
Ouais.
donc on n'est pas d'inquiétude à ce niveau-là. On change de division, on a une petite promo des Usos là dans leur salle des machines. Voilà, ils ont des nouveaux hoodies, là, des nouveaux gilets. Le Miz backstage n'est pas content, il vient se plaindre auprès de Shane, qui ne semble pas saisir un peu l'opportunité que c'est de créer le Miz. Il lui dit, mais écoute, vas-y Shane, t'as qu'à booker le match là, title shot pour nous là, pour aller chercher le titre. T'es un McMahon après tout, ça n'a jamais arrêté un McMahon. Il fait un McMahon, c'est censé faire ce qu'il veut. Alors que là, c'est vrai que Shane est plutôt du genre à faire, oh non, faut, ça se mérite, tu sais, un title shot. Je veux pas me placer comme ça dans la title picture. Alors, on rigole hein, quand il dit ça, quand même, parce que c'est un peu le spécialiste, Shane McMahon. Je veux dire, il s'est quand même auto-booké dans le tournoi
Ouais,
du meilleur du monde il y a un mois avant.
ça c'était n'importe quoi. Non, mais après quelque part je comprends son raisonnement. C'est quand même une équipe qui est relativement jeune, son association avec le Miz. Ils ont eu quoi? Ils ont eu deux matchs, trois matchs à tout casser. Ils ont besoin de se prouver à eux et aux autres qui sont capables d'avoir des matchs correctement. Donc pourquoi pas pour faire ça, grimper la carte. De la tag team, on commence par le bas et puis on monte jusqu'au sommet. Là, je comprends son raisonnement à Shane.
Ouais, effectivement, il faut qu'on s'entraîne, etc. D'ailleurs, on verra un peu plus tard que c'est ce qui va peut-être leur donner l'opportunité d'avoir ce fameux title shot. Voilà, ça discute un petit peu gear, enfin outfit, hein, comment ils vont s'habiller,
Ouais.
etc. Et on a l'autre qui veut s'habiller en cuir blanc, je crois, et puis l'autre en cuir rouge, je sais plus. En tout cas, voilà,
Ouais, quelque chose comme ça, c'est...
ce qui est sûr, c'est que le Miz est à fond et Shane a besoin d'être convaincu. On a un autre match dans les divisions tag team. C'est The Bar qui reçoit les Usos. Et si les Usos gagnent leur affrontement, ils auront un title shot. Alors on se dit, c'est pas possible. Nous faites pas ça, les gars. Il y a 3 semaines, vous avez remis en avant toutes les équipes cachées à la division de SmackDown. Et là, vous allez nous remettre les Usos en title shot. On tire un peu la langue. On a un gros match. Hein. On a un match 4 étoiles entre ces deux équipes qui se connaissent par cœur. Ça dure longtemps. On se dit jusqu'où ils vont aller. Quand soudain, une intervention assez pourrave là, de Mandy Rose qui vient avec sa petite serviette pour déconcentrer Jimmy, je crois.
Oui, c'est Jimmy.
Elle vient lui dire, ah là là. Est-ce que je peux venir récupérer mon soutif là dans ta chambre d'hôtel? Alors dégoûté, et puis évidemment ça provoque la distraction et la défaite des Samoans. Un petit peu plus tard, ils iront se chamailler là, tout ce beau monde. Et le Miz débarque ensuite et il vient réclamer un title shot face à The Bar hein, en leur disant bah les gars, écoutez, il vous reste plus qu'une team à vaincre. Vous avez un petit peu nettoyé. Toutes les équipes à SmackDown, alors chez Sheamus et Cesaro, ils font ouais, c'est vrai, on a même détruit toutes les équipes à Monday Night Raw. Alors c'était pas compliqué. Cesaro dit bah attends, je vais demander à Sheamus. Et puis bah Sheamus y répond en mettant un gros broad kick dans la tête au Miz. Et Cesaro prend son micro et je sais pas toi si t'as surpris, mais accepte le défi. De cette équipe qui n'est pas prête, de cette équipe qui cumule les problèmes avec d'organisation, les daddy issues. Donc, le Miz et Shane McMahon affronteront Sheamus et Cesaro Royal Rumble pour le titre par équipe. Ça a plutôt bien
Ouais.
marché la technique du Miz.
Ouais, bah oui, là, et en même temps, il a pris Shane au mot. Il dit il faut défier tranquillement. On s'accorde pas des title shots comme ça. Il faut aller défier les gens. Et bah, il est allé défier les gens. Il a pris Shane au mot. Donc là, il pourra
Après
pas
chaîne au Mac,
se.
chaîne au mot.
C'est ça. Sinon, le match face aux Usos, bah, comme tu l'as dit. C'est du vu, du revu, mais on aime toujours ça parce que c'est toujours bien fait, donc on va pas se plaindre. L'intervention de Mandy Rose, ah pitié, c'est non, ah, faut pas ce genre d'intervention, c'est nul. Ça, parce que ça sous-entend plusieurs trucs et plusieurs trucs qui sont pas bien. Que Jimmy Uso est un mari infidèle, que Mandy Rose n'est là que pour son corps. Non, faut arrêter ça. D'autant plus que la rivalité entre Mandy et Naomi, on s'en fout un peu.
Mais c'est
Du
ça en fait,
coup.
je comprends pas trop, c'est quoi la storyline en fait? À part le seul truc, à part quoi? On alimente tous les épisodes de Total Diva là, en fait, concrètement.
Ouais, global, c'est l'impression que j'ai aussi, c'est ça sert à pas à grand chose.
Enfin, la rivalité Naomi-Mandy Rose, enfin, on sait à peine si on est au courant qu'elle existe, elle existe juste dans des petits segments backstage. Voilà. Et puis c'est pas, on
Une
s'en fout, c'est pas du
rivalité à
tout.
base de fausses tromperies, de ah ton mari en fait il a couché avec moi, mais
Ouais,
non,
en plus c'est le
on,
côté
mais non,
soap.
ça présente Jimmy Uso comme un connard, alors que justement il est face, donc il faut pas le présenter comme un connard. C'est là ils ont tout
Ouais.
faux, je trouve.
Bon, je sais pas si ça présente vraiment comme un connard, mais on essaye. Enfin, elle, c'est clairement, c'est
Ah, c'est ce qu'elle
le
essaie, c'est ce
ce
qu'elle
qu'elle
essaye de
essaye de
faire.
faire, mais
Qu'elle essaye
pourquoi
de
en fait?
faire.
Qu'est-ce qu'elle a. Enfin, quel est son objectif? Pourquoi elle a besoin de faire toute cette mise en scène, de faire croire que une infidélité pour cette rivalité bancale avec Naomi? Enfin, quel
Bah,
est
son
le.
but, c'est de déstabiliser Naomi, mais
Même pourquoi?
Naomi, elle n'a pas de ceinture,
C'est ça.
elle a rien à perdre dans cette histoire, Naomi. Donc non,
Ouais.
c'est la rivalité, je ne comprends rien. J'espère qu'on aura une explication potable un jour, parce que là, c'est mal barré. Et surtout, ça redonne une mauvaise image des femmes, parce qu'on a eu une année 2018 avec les femmes à l'honneur à la WWE, en montrant qu'elles n'étaient pas que des corps qui sont là pour le plaisir des yeux et autre chose. Et puis t'as Mandy Rose qui débarque et qui te fait tout un sketch comme quoi elle est belle et tout. Ben non, c'est pas la bonne chose à faire.
Ouais. Moi, en soi, perso, ça me dérange pas qu'il y ait encore ce genre de perso. C'est même, je trouve, parfois rafraîchissant parce que c'est, enfin, on n'est pas obligé de faire tout ou rien, toi. Je trouve ça aussi marrant, ce genre de perso. Mais c'est surtout, ça n'a clairement aucun intérêt. C'est très mal raconté et il n'y a pas de, y a pas vraiment d'histoire. C'est pas très intéressant, quoi, tout
Si
simplement.
encore c'était Naomi qui était championne à ce moment-là,
Voilà, c'est
ça aurait
ça.
un sens. Elle veut la déstabiliser pour lui prendre sa ceinture. Là, il y a aucun sens pour moi actuellement. Donc j'espère qu'on aura une explication un jour, autre que regarder Total Diva pour comprendre pourquoi elles sont pas amies.
Ouais,
C'est parce que
j'ai
ça
peur que
marchera
ça...
pas pour moi.
Bah non, mais j'ai peur que ce soit ça, tu sais, hein. Bon, bah
Oh
voilà.
mon Dieu.
Bon, je regarderai Total Diva pour te dire.
Ouais, tu
La
te
suite.
sacrifieras pour la cause,
Pour
Ketchup.
Ketchup. Tu le fais pour Ketchup. Bon, allez, heureusement que la division féminine ne se traduit pas que par les serviettes oubliées dans les chambres d'hôtel, puisque ce soir, nous avons une triple frite à Ketchup. On aime les triples frites. Cette triple frite, elle oppose Charlotte à Becky et à Carmella, ni plus ni moins que pour un title shot fa face à Asuka pour le Rumble. On sait que, d'ailleurs, c'est une drôle de règle pour laquelle je ne vois pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, il n'y a plus de rematch automatique. Donc voilà, pour autant, on retrouve quelqu'un qui a perdu son titre va se retrouver dans... Bah, typiquement dans ce genre de situation où on va mettre tous les anciennes championnes dans une triple frite pour avoir un futur title shot. Le match, il y a trois promos d'abord. Carmella, Becky et Charlotte. Carmella, je sais plus ce qu'elle dit, mais sa promo était pas mal, c'est dommage. Elle était plutôt sympa, sa promo. Becky prévient Asuka qu'elle aura besoin de faire plus que grimper une échelle pour gagner cette fois-ci, parce que finalement elle estime qu'elle n'a pas été battue. Quant à Charlotte, j'ai beaucoup aimé. Elle dit que Carmella c'était la catcheuse, on va dire, la plus chaude de l'année dernière. Becky c'est celle de cette année, mais qu'elle a été la catcheuse la plus chaude des dernières 4 dernières années. Donc tout le monde est au taquet dans un match que j'ai trouvé, ma foi, plutôt solide et assez divertissant. Et à la fin, c'est bien Becky Lynch, comme quoi finalement il suffisait de donner le rematch, qui fait, je ne sais plus si c'est un tombé ou une soumission sur Carmella.
Soumission.
Soumission sur Carmella, Carmella qui est obligée de taper, et Becky est envoyée au Royal Rumble pour aller tenter de défier la japonaise. Donc voilà, le programme un petit peu là, il s'éclaircit pour le Rumble. On commence à prendre des décisions, hein, la WWE, même si tout est encore possible, puisque si Becky Lynch est dans un match pour le titre, il y a peu de chances, même si c'est pas impossible qu'elle soit dans le Rumble match. Par contre, Carmella, elle, qui avait déjà sa 30e place, bon, bah voilà, ça c'est confirmé. Et Charlotte. Bah, Charlotte, elle se retrouve dans la position de celle qui va devoir se battre jusqu'au bout pour assurer sa place à WrestleMania. Qu'est-ce que tu penses de cette situation qu'on nous présente à la fin de SmackDown?
Alors, le match en lui-même a été super bon, toutes ont été très bien,
Ouais.
même Carmella qui, on le sait un peu, on le sait, est un peu techniquement en dessous des deux autres, bah là, elle a fait un match, mais même correct, ce serait pas assez, ce serait très bon même, elle a fait un très bon match pour elle.
Ouais.
Donc là, moi j'étais très content du match, les trois ont été bookés. Forte, mais pas trop forte non plus, donc tout le monde a eu son moment. Je sais plus, à un moment, il me semble qu'il y a eu une soumission de Carmella, on a cru qu'elle pouvait effectivement gagner à ce moment-là. Non, le match a été bien. Les promos ont été bien. Lors de leurs entrées, il y avait des petits passages de ce qu'ils avaient raconté sur Twitter aussi pour hyper le match.
Ouais.
C'était très bien aussi. Tout a été très bien dans ce match pour moi et dans cette conclusion. Et puis bah Becky qui gagne à la fin, je ne peux être que content. On va avoir Becky Asuka au Rumble. Moi, je suis content. Puis qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Ouais, bah
Bah,
effectivement.
sur le l'abandon, excuse-moi, l'abandon des rematchs automatiques. Quelque part, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il y a une petite dizaine d'années, on s'était retrouvé avec les deux mecs. Alors c'était Raw pour le titre WWE à l'époque. On avait John Cena, Randy Orton qui arrêtaient pas de s'échanger la ceinture d'un pay-per-view à l'autre. C'était un peu lourdingue à la fin. Donc je comprends qu'ils aient abandonné l'idée des rematchs automatiques. Il faut gagner sa place pour un rematch. Donc ça, c'est bien. Et moi, je suis content pour l'instant. J'ai envie d'en voir plus.
Ouais, effectivement, on a eu. Bah, de toute façon, Charlotte et Becky Lynch, quand elles sont dans le ring, toutes les autres autour, elles brillent. Carmella, elle a besoin d'être portée par les vétérans, par celles qui, par voilà, les vrais main eventers. On l'avait bien vu hein, l'année dernière dans son match face à Charlotte. Je me souviens, hein, pour moi, c'était mon flop. C'était Charlotte qui n'avait pas du tout porté le match, et du coup, Carmella avait paru ridicule parce que. Tout était approximatif. Là, avec Becky Lynch et Charlotte qui ont à cœur de montrer que c'est qui est la meilleure, Carmella, bah, elle peut élever son niveau et c'est ce qu'on attend aussi des... Alors, ouais, maintenant c'est des vétérans. Hein.
Ouais.
Ça va tellement vite maintenant. Du coup, bah, tout le monde a brillé. Et puis c'était important aussi parce que, bah, à la même manière qu'R-Truth en début d'émission, elle a le slot numéro 30 et bah.
Ouais, c'est
Ce
ça,
qui nous
c'est.
paraissait ridicule à la fin du Mixed Match Challenge, on se dit bah tiens bah on nous book fort
C'est
deux.
ça, ouais, c'est exactement ce que je me suis dit.
Ouais.
Ils sont bookés costauds l'un et l'autre. Donc la preuve que finalement ils ont pas fait ça que pour la déconne.
Ouais.
Puis quelque part ça hiérarchise aussi la division féminine à SmackDown puisque du coup
C'est vrai.
on a un quatuor de tête avec Asuka, Becky, Charlotte, Carmella et les autres qui sont un peu anecdotiques à côté.
Ouais, et qui vont du coup devoir se battre pour monter. Et t'as
Voilà,
raison de
c'est
le
ça.
dire, c'est important d'avoir une hiérarchie solide qui ne bouge pas trop souvent. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas forcément la vision à l'américaine, en tout cas WWE, où grosso modo n'importe qui du jour au lendemain peut devenir champion avec les Oh My God Moments. Mais pour autant. Tout au long de l'année, c'est important de bien montrer qui sont les plus fortes et qui a encore du boulot à faire. Et c'est vrai que là, on avait quand même bah, ces quatre-là. Alors à la fin, il y a Asuka hein, qui rejoint le. En parlant d'Asuka, justement, dans ce fameux carré magique dont tu as parlé, qui arrive et qui vient défier Becky Lynch. J'ai beaucoup aimé leur face-à-face. Elles se sont gueulées dessus comme du poisson pourri. En particulier Asuka, c'est très drôle parce que. Autant Nakamura quand il parle en japonais, tu cales rien, autant qu'Asuka, elle gueule, elle crie, elle est pas contente en japonais, les gens ils popent dessus.
Ouais, c'est vrai.
Et on comprend pas plus que Nakamura, mais les gens font pas what, quoi, parce qu'elle est en colère et t'as l'impression de regarder un dessin animé japonais avec le héros qui s'énerve, toi, et que tu regardes en
Ouais.
VO et tu
Bah,
comprends pas tout, mais.
c'est aussi qu'Asuka, elle a une expression faciale qui est
Ah
plus
ouais.
marquée que Nakamura. Tu sens tout de suite qu'elle est en colère ou pas. Nakamura, faut toujours regarder un peu plus.
Ouais, quand elle arrive, même quand, enfin, tout son corps, elle a vraiment trouvé un moyen de s'exprimer. Bah, c'est ce qu'avait fait ses beaux jours à NXT aussi. Hein, elle a pas changé la formule. Et en face, t'as Becky Lynch, qu'on comprend pas forcément tout ce qu'elle dit d'ailleurs non plus, avec son accent là, avec de patates chaudes. Donc voilà, les deux filles, on comprend rien à ce qu'elles disent, mais on veut les voir se mettre sur la trompe. Donc
C'est ça.
c'est plutôt réussi.
Ouais.
Eh ben écoute, c'est comme ça que se terminait cet épisode de SmackDown, un épisode assez solide. C'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît?
Alors, mon flop, ça va aller à l'intervention de Mandy Rose parce que je ne comprends vraiment pas. Si c'est juste pour hyper Total Diva, il y avait peut-être d'autres façons de faire ça. Voilà. Mon top, j'ai envie de le donner à tout le segment, enfin, Au package total du main event, les interviews, les petites promos Twitter, le
Ouais.
match en lui-même, moi, ouais, ça m'a bien plu. Et puis la note, je vais mettre un 4, parce que
Ouf.
moi, j'ai vraiment aimé ce match, j'allais dire ce Raw, ce SmackDown. Et donc, ouais, j'étais bien content. Un bon 4.
Super, bah écoute, pour moi, mon flop, en fait, j'en ai pas parlé parce que j'ai pas conservé la chronologie. Mais mon flop, c'est qu'on a eu une longue séquence où en fait on a enchaîné 5 promos d'affilée, avec les promos des filles, la promo de Rousseff, et puis encore d'autres promos. Et je trouve à ce moment-là, le temps est un petit peu long. Donc il y a un petit souci, j'ai trouvé, de rythme.
Ouais.
Voilà, 5 promos d'affilée, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, là-dessus, attention, bon, c'est pas un gros flop, hein. Quant à mon top, qu'est-ce que j'avais mis? J'ai mis en top le Miz. Bah, j'ai mis le Miz en top. Effectivement, le Miz qui a été très malin, qui est toujours au taquet, hein, dès qu'il faut, cette promo et son alchimie avec Shane marche plutôt bien. Je trouve qu'il arrive à rendre le Shane presque sympathique et presque bon dans ses promos, presque bon dans ses promos. Donc voilà, c'est pas pour rien. Vous irez écouter nos awards si vous l'avez pas fait. C'est pas pour rien que le Miz s'est retrouvé dans nos tops de l'année 2018. Quant à ma note, eh ben, je mets un 3,5. C'était très solide à tous les niveaux ou presque. On est bien parti là pour le Royal Rumble. On est impatient de voir tout ce beau monde se passer par-dessus la troisième corde.
Ouais.
Catch Up, hein, évidemment, c'est votre podcast qui résume et analyse tous les shows de la WWE, mais pas que. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur PodCloud, sur Spotify, mais également sur YouTube. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous partager votre top et votre flop dans les commentaires de la vidéo YouTube, notamment. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à aller checker les vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer. Abonnez-vous. Comme ça tombe dès que les épisodes sont publiés. Eh ben, mon bon Bad Karma, merci à toi pour ta présence explosive et surtout d'avoir tenu le marathon, la catch-up toute cette semaine.
Ouais.
Tu as bien mérité, je pense que je vais t'accorder une semaine ou deux de repos là quand même. Ce qui est sûr, c'est que ce week-end, il y a le NXT UK Takeover à suivre. Donc voilà, vous avez un petit week-end de catch pour les gens qui ont Network. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut! Je me réserve le droit de dire non.